simplement pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Grégor. Chaque semaine, c'est les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse. La locale à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste. Allez, bien aujourd'hui on va reprendre une émission de Radio Libertaire qui s'appelle Le Trou Noir et qui est consacrée à l'Algérie avec un large interview de Sidi Moussa, Nedjib Sidi Moussa, qui revenait le 9 avril ou le 8 avril d'Algérie. Donc voilà, vous allez après, on pourra faire des commentaires.
Aussi de préciser une chose. Alors je ne suis pas parti en Algérie pour mon bouquin.
Ah d'accord.
Même si il est sorti, effectivement, il devait sortir à cette période-là. Disons que mon livre, je crois que je l'avais déjà un peu dit la dernière fois. C'est sûr que ça représentait beaucoup pour moi en termes de travail et autres, ou de perspectives de travail, sans en dire davantage. Mais c'est surtout ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, d'accord, ce qui s'est passé depuis le 22 février, qui a fait que je suis parti un peu précipitamment, sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui me retenaient, et que je ne suis pas non plus le seul de ce qu'on peut appeler soit les franco-algériens, soit les Français d'origine algérienne, soit les Algériens de France ou la diaspora, à avoir fait ce voyage, étant donné les circonstances exceptionnelles. J'ai pu moi-même le voir sur place. D'ailleurs, bon, peut-être qu'on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais je voulais juste préciser que voilà, je suis resté une dizaine de jours, pas trois semaines. J'aurais aimé de rester trois semaines. Et pour moi, voilà, je ne pouvais pas rester à Paris, me rassembler sur la place de la République avec une partie de la diaspora le dimanche, un peu piétiné, un peu tourné en rond, discuter ou répondre à des sollicitations, alors soit d'amis ou de compagnons ou de camarades comme ici, ou alors d'autres médias qui me sollicitaient. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut être sollicité d'un coup, étant donné une actualité, alors que l'Algérie, qui est pourtant, il me semble, une question importante au point de vue historique et politique, du point de vue français, me semble une question ou un pays relativement sous-traité ou maltraité, notamment à gauche ou à la gauche de la gauche. Ce qui ne veut pas dire que certaines publications ou certaines personnes ne sont pas n'ont pas une analyse ou n'ont pas des perspectives intéressantes à ce sujet. Mais cela me semble insatisfaisant. Cela m'a semblé insatisfaisant. Peut-être que il y aura une décantation ou une ouverture de ce point de vue-là, mais bon. Donc mon séjour, alors je sais pas par où commencer, il s'est étalé, donc comme je le disais, sur une dizaine de jours. J'ai voulu partager ce moment historique avec les Algériens, avec mes amis, avec des camarades ou des compagnons qui sont essentiellement à Alger. Et j'ai voulu aussi sentir cette atmosphère, voir de mes yeux ce que peut-être ne transparaissait pas dans les comptes rendus de la presse. Et surtout avoir des discussions donc avec en particulier des militants de gauche ou de la gauche qui est un microcosme, hein, qui est un petit milieu à Alger pour des raisons historiques, notamment en raison de la longue histoire de répression, en raison de l'hégémonie des conservateurs, des islamo-conservateurs, et aussi du fait que les néolibéraux, les capitalistes ont relevé la tête au cours de la dernière période et sont en train d'avancer leur agenda et leur pion, y compris dans cette configuration. Donc j'ai voulu revoir mes amis, discuter avec eux. Des perspectives, de ce qui se passait, sachant que moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir s'il y avait de l'auto-organisation, s'il y avait une effervescence au niveau social et démocratique en dehors des démarches du vendredi, puisque il me semblait que dans les médias français, les médias se sont essentiellement focalisés sur ce qui se passait le vendredi, donc des marches qui sont spectaculaires. Alors peut-être que je reviendrai un petit peu dessus, je vais pas me livrer un monologue ce soir, mais il s'est passé et il continue de se passer beaucoup de choses en dehors du vendredi. Et c'est peut-être là que les choses vont se jouer de mon point de vue.
Comment t'as ressenti à ton arrivée à Alger l'ambiance qui pouvait y régner? J'imagine que t'as dû faire ces dernières années beaucoup d'allers-retours entre Paris et Alger. D'ici, on avait l'impression que, on l'a dit hein, dans la précédente émission qu'on a fait ensemble, il y a eu des mouvements au long de ces 20 dernières années de règne de Bouteflika et de sa clique. Il y a eu des manifestations, des grèves, des mouvements sociaux. Il y a eu des mouvements même qui ont été très sévèrement réprimés, comme le printemps noir de Kabylie en 2001. Mais on avait quand même l'impression, surtout après les événements du printemps arabe, ce qu'on a appelé le printemps arabe en 2011, on a l'impression qu'il y avait une espèce de chape quand même qui était posée sur l'Algérie. Et moi, je me souviens qu'en 2011, lorsqu'il y a eu quelques manifestations à Alger, à la fois des manifestations de soutien à ce qui se passait à Tunis et puis ensuite au Caire, mais aussi certaines revendications étaient remontées, il y avait des mouvements de qui commençaient à émerger. Tout de suite, le pouvoir algérien à ce moment-là a tout bloqué. Et puis c'était une période où le pétrole avait quand même valait encore assez cher sur le marché international, et le gouvernement algérien a distribué comme ça de l'argent pour essayer d'éteindre le mouvement social. Comment tu as ressenti, et là je parle vraiment d'un point de vue purement émotionnel, sentimental presque, hein, l'ambiance quand on arrive dans une capitale en effervescence depuis presque un mois. Quelles sont tes premières impressions?
C'est simple, hein. En arrivant, donc le taxi qui m'a amené au centre-ville où j'ai logé quelques jours, la circulation était complètement bloquée. Alors pour ceux qui connaissent Alger, l'hypercentre, c'est entre, on va dire, la Grande Poste et la place Audin, et entre deux il y a la fac centrale. C'était bloqué parce que il y avait deux rassemblements, si je me trompe pas. À ce moment-là, il y avait le personnel de santé qui était également mobilisé, et aussi les étudiants. Et alors c'était évidemment émouvant. Bon, je pouvais pas, donc je suis descendu avec ma valise et mon sac, comme tout bon touriste qui se respecte. Et j'ai remonté donc l'avenue pour me diriger vers la place Maurice Audin, qui était occupée par les étudiants qui défilaient joyeusement en scandant des slogans contre le pouvoir. Et ça contrastait complètement avec l'Alger tel que je l'avais vu il y a un an, quasiment jour pour jour, où dans une espèce de fatalisme, les gens se préparaient, hein, à un cinquième mandat, avec un président qui était dans l'état de santé qu'on connaissait. et qui avait choqué aussi beaucoup d'Algériens, puisqu'à cette époque, il avait inauguré une mosquée qui avait été rénovée par les Turcs. Et quand il avait été sorti de la mosquée sur son fauteuil, il avait encore des chaussons en plastique bleu. Et ça avait, oui. Je sais pas si les gens se souviennent de cette image-là, mais ça avait causé une sorte de blessure en narcissique, puisque ça voulait dire qu'en gros, il n'avait plus toute sa tête, et que celui qui dirige l'Algérie, en fait, n'est plus capable de le faire. Je me souviens très bien des réactions indignées ou choquées de beaucoup d'Algériens à ce moment-là. Et aussi, beaucoup de mes amis, ou en tout cas certains de mes amis qui étaient sur place, songeaient à quitter le pays. D'ailleurs, c'était ça. Le discours dominant, c'est que il n'y avait plus rien à faire, que cette société était fermée, était bloquée, et que pour ceux qui avaient des enfants, ils ne voyaient pas les élever sur place. Bon, inutile de dire que ça a complètement changé. L'état d'esprit a complètement changé. Ceux qui avaient des discours complètement catastrophistes ou démoralisés, et on ne pouvait que les comprendre, maintenant discutent de la suite, discutent de projets, ont retrouvé le sourire dans tous les sens du terme, et une certaine combativité. Ça, c'est quelque chose qui est prenant, qui est immédiatement saisissable, en tout cas qui l'était complètement, donc le jour de mon arrivée le 19 mars. Pour moi, ça a été le séjour le plus émouvant, le plus passionnant que j'ai pu faire durant ces dernières années à Alger. Donc, oui, vas-y.
Quels étaient les mots d'ordre à ce moment-là? Tu arrives donc le 19 mars, on ne sait pas encore très bien comment ça va évoluer, on est encore dans une perspective très, très floue. Quels sont les mots d'ordre qui rassemblent les manifestants? Qu'est-ce qu'ils réclament, donc le départ de Bouteflika?
Oui, parce qu'à ce moment-là, on en est là, parce que le président a attendu que je rentre à Paris pour démissionner, pour annoncer sa démission. Mais oui, en fait, on est encore dans cet état d'esprit. Donc il y a encore une forme de communion nationale, d'unanimisme, d'ailleurs sur lequel on pourra revenir après, parce que ça pose quand même de sérieux problèmes au plan politique, au plan des perspectives qu'on peut dégager. Donc on en est encore là. Pas de répression encore, tout à fait dans les la rue et peut encore être occupée les jours de semaine, et j'ai pas encore parlé du vendredi, on en parlera sans doute après. Donc il y a des aspirations, alors chez les étudiants, ce qui s'exprimait aussi, répercuté par la presse, c'est le fait qu'ils ont envie de vivre dans ce pays. Donc notamment, il y a tout le problème qui se pose, alors c'est au niveau international, mais en particulier au Maghreb, le cas des diplômés chômeurs, des personnes qui vont à l'université, qui décrochent un master, éventuellement plus, et qui ne trouvent pas de travail ou de travail à la hauteur de leurs qualifications. Donc, ce qui fait qu'il y a tout un pan de la société qui est soumis à la précarisation, au travail déqualifié, et ce qui crée aussi légitimement une certaine forme de frustration. Donc, on a chez les étudiants le lien qui a été fait, et qui n'est pas évident d'ailleurs chez beaucoup d'Algériens, il faut être clair là-dessus, entre d'un côté l'exigence politique de rompre avec le régime, de chasser Bouteflika, donc on est encore au 19 mars, et aussi une certaine forme de liaison avec la question sociale, celle de trouver du travail, celle de vivre dans ce pays et de s'y projeter, et de ne pas être condamné à l'exil finalement. Donc d'être diplômé, de partir en France, au Canada, ou dans n'importe quel autre pays où on peut avoir un visa et se projeter. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez fort chez les étudiants, qui est avec la jeunesse. Alors quelle jeunesse, on pourrait en discuter, est clairement une des forces motrices de ce mouvement. Voilà. Ils ont donné le ton, ils s'organisaient là où il y avait des possibilités sur leur campus, donc dans leur cité universitaire, même s'il y avait des limites par ailleurs, et qui ont pris l'habitude d'occuper la rue le mardi, donc de sortir dans les rues le mardi. Le mardi, c'est le jour des étudiants, quoi.
Il y a tu as parlé des étudiants. Est-ce qu'il y a d'autres forces politiques? Alors ça peut être des partis, des syndicats, des mouvements sociaux, associatifs, qui à ce moment-là s'expriment ou portent la parole d'une partie de la population. Est-ce qu'il y a des mouvements, je dirais pas catégoriels, mais du moins qui Par exemple, est-ce que la parole des ouvriers, des employés, à ce moment-là, elle est présente? Est-ce qu'elle est reconnaissable? Est-ce qu'on l'entend? Et à travers quel, si jamais elle existe, à travers quel canot elle passe?
Oui. Alors, il y a ce qui s'est mis en place en fait assez progressivement, c'est que voilà, la semaine s'est subdivisée en donc le nombre de jours que compte une semaine, et donc entre chaque vendredi, disons que chaque catégorie socioprofessionnelle, enfin chaque, pas toutes évidemment, mais des catégories socioprofessionnelles particulières ont occupé un créneau. Donc ça a été, comme j'ai dit tout à l'heure, les personnels de santé, il y a aussi les magistrats, aussi oui, les avocats, voilà. Oui. Qui sont sortis, je les ai vus aussi dans la rue, une catégorie de fonctionnaires, etc. En revanche, les ouvriers, peu importe la définition qu'on donne là-dessus, pendant en tout cas mon séjour, il n'y a pas eu de manifestation distincte, en tout cas pas à ma connaissance. Hein. Je veux surtout pas dire de bêtises. Mais ce qui se passe, ou ce qui est en train de se passer, c'est que, notamment dans la centrale syndicale qui est majoritaire, enfin c'est la centrale historique liée à l'État qui s'appelle l'UGTA, l'Union Générale des Travailleurs Algériens, il y a un mouvement de contestation en son sein, et qui vise, hein, parce que le mot d'ordre général de ce mouvement, c'est de tous les dégager, et qui cherche à dégager le secrétaire général, il s'appelle Abdelmajid Sidi Saïd, qui est quelqu'un qui a fait campagne pour le cinquième mandat de Bouteflika et qui a bridé hein, pendant toutes ces années, mais comme le GTA, hein, qui est là pour... il joue le rôle de pompier social et qui vise à éteindre toute forme de contestation et à empêcher toute expression propre des travailleurs. Hein, donc c'est ça, l'UGTA, ça sert à ça. Ça sert à canaliser, à verrouiller la contestation.
Justement, je voulais te poser une question là-dessus, ouais. Sur exactement ce qu'a soulevé Mohamed, justement sur l'UGTA, parce que j'ai deux expériences qui personnelles, mais enfin où j'ai eu des contacts avec des ouvriers algériens qui étaient en France et qui étaient partis là-bas avec l'espoir justement d'enlever cette chape de plomb qui était le FLN à l'intérieur du GTA. Une autre expérience aussi, il y a eu des contacts par exemple entre l'UGTA et la CFDT à l'époque, à cette époque-là, où il était clair que l'interlocuteur c'est le FLN. Quoi. Mm. Ils voulaient bien aider à ce qu'il y ait des gens qui s'organisent à la CFDT, mais ils auraient été contrôlés par le FLN. Donc je pense que ça n'a pas dû s'arranger depuis cette période-là. Donc est-ce que... Alors c'est peut-être difficile, t'as peut-être pas passé assez longtemps, mais est-ce qu'au sein justement des gens, le GTA au-delà de, bon, on a quelqu'un qui a la tête, cette emprise du FLN qui est quand même un truc fondamental pour réussir à créer quelque chose qui soit vraiment dans les mains des ouvriers, est-ce que la question est posée? Enfin, t'as peut-être pas eu le temps de...
Non, mais j'ai eu des échos. Alors c'est pas que le FLN, hein, le GTA, hein. Il y a des... Je vais pas rentrer non plus dans les jeux politique de qui contrôle le GTA. Il y a des liens aussi avec un autre parti de l'administration qui est le RND, le Rassemblement National Démocratique, qui est une, on va dire, selon l'expression consacrée en Algérie, un bébé né avec les moustaches, en fait, qui est sorti un peu de nulle part et qui, au moment où, d'ailleurs, pendant la guerre civile, au moment où le FLN traversait une crise, eh bien, ce parti qui justement ne pouvait pas, de par sa constitution, être sujet à une toute forme de contestation du régime ou de la politique du régime à ce moment-là, eh bien, a émergé, a raflé la majorité des sièges donc à la fin des années 90. Et aujourd'hui, il fait partie des deux partis de l'administration avec le FLN. Donc bon, c'est juste pour apporter une petite précision qui n'est pas majeure, mais ce qui est clair, et là il y a des éléments qui sont avérés, qui sont dans la presse, des choses aussi qu'on m'a rapportées, c'est que donc il y a un mouvement de contestation de la part de certaines sections locales et de certaines fédérations qui sont un peu plus combatives et qui poussent pour qu'il y ait un congrès extraordinaire. D'accord. De l'UGTA pour chasser la direction actuelle. Sauf que, bien sûr, hein, les bureaucrates, on ne les chasse pas comme ça. Ils peuvent être prêts à faire un congrès extraordinaire, mais à condition de le verrouiller. Donc là, c'est ce qui est en train de se faire, c'est ce qui est en train de se jouer. Et je voulais aussi rapporter deux anecdotes. C'est donc la veille de mon départ, donc le 30, samedi 30, il y a des syndicalistes dissidents donc de la direction et de l'UGTA. On cherchait à se rassembler devant le siège de la centrale. ils se sont fait recevoir par des hommes de main de Sidi Saïd, donc avec des chaînes, couteaux, etc. Donc vraiment les méthodes mafieuses. Ils ont essayé de faire un autre rassemblement ce samedi, si je ne me trompe pas. Et là, ils se font recevoir par la police. Donc arrestation. Ce qui montre aussi qu'on est passé à un autre niveau, hein, au niveau de concernant la répression. Il me semble qu'on est à un tournant de la mobilisation.
Voilà. Ce que tu dis est très très important parce que au-delà simplement des petites magouilles politiciennes et politiques, ça montre bien qu'il y a jusqu'à maintenant, les contradictions sociales, les contradictions internes à certains secteurs de l'Algérie étaient cachées et on pouvait, si on connaissait bien si on avait les codes, on pouvait éventuellement en décoder certaines. L'intérêt de ce mouvement, c'est qu'elle les fait paraître au grand jour. Oui. C'est tout l'intérêt des mouvements, révolutionnaires ou des mouvements qui remettent en question fondamentalement les structures d'un pouvoir. C'est ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui s'est passé en Égypte et ailleurs. C'est qu'à un moment donné, les contradictions internes qui sont étouffées par la chape de plomb d'un pouvoir centralisateur et très fort, elles finissent par paraître au grand jour. Et ce que tu dis là, c'est vraiment c'est quelque chose de, à la fois de typique, archétypique même, hein, et en même temps très intéressant du point de vue de l'analyse de la situation. Et c'est ça qu'on voit peut-être pas dans la presse mainstream, hein, dans ce qu'on peut lire aujourd'hui sur ce qui se passe en Algérie. On a l'impression qu'il y a une unanimité au sein de la population algérienne, et là on va revenir sur cette question de l'unanimisme, contre une toute petite portion de l'Algérie qui serait un État complètement détaché. Alors qu'en fait, ces contradictions, elles sont très profondes.
Oui, bien sûr. Et elles surgissent à la moindre occasion. Alors, je pourrais peut-être raconter quelques anecdotes, mais toutes les questions, en fait, maintenant, sont posées sur la table. Qu'il s'agisse de la question sociale, donc qu'on a un peu évoqué, de la question culturelle, de la question sexuelle également, de la question religieuse. En réalité, c'est une période qui est extrêmement favorable pour pousser le plus loin possible toutes ces questions, les aborder, les traiter, puisque... elles ont, même si il est vrai qu'il y a toujours eu des espaces de discussion, mais ils sont restés confinés justement dans les marges. Et il n'y a jamais eu de grands débats publics et contradictoires où les différentes tendances s'affrontent et défendent à visage découvert, donc sans porter de masque, sans être dans la réticence et dans la frilosité, avancent des perspectives soit révolutionnaires ou en tout cas à tout le moins progressistes. Aujourd'hui, il me semble que c'est un mouvement favorable. En tout cas, ça l'était. Est-ce que ça le sera encore? Je ne sais pas. Il faut suivre là vraiment jour après jour et heure après heure les événements. Sauf que justement, les organisations, les groupes ou les partis qui sont censés parler au nom des classes populaires et qui se réclament de la gauche, voire de la gauche de la gauche, sont justement elles-mêmes dans un état de faiblesse ou de sclérose ou de peur ou d'attentisme, que ça, c'est assez compliqué et c'est pas forcément d'elles, de ce côté-là, que ça viendra. Par exemple, j'ai vu passer un appel à la grève de la part d'un syndicaliste de la fonction publique, qui, c'est assez significatif, qui a dit surtout, on va pas mettre en avant des revendications socioprofessionnelles. On veut faire une grève politique. Nous, on veut tous les chasser, mais on ne veut pas faire avancer la cause ou les intérêts des travailleurs, les intérêts particuliers des travailleurs, parce que ça viendrait briser cet unanimisme. À mon sens, ça pose un problème, parce que c'est au contraire un moment extrêmement favorable. D'ailleurs, il se trouve que dans certaines entreprises, notamment Algérie Télécom, si ma mémoire est bonne, il y a eu, la direction a lâché une augmentation de 13% à ses salariés. Mais ça sert à désamorcer. Ça sert à désamorcer. Et idem, certains patrons de boîtes privées ont aussi voulu donner des jours de congé ou des augmentations pour désamorcer, pour empêcher qu'il y ait un conflit dans l'entreprise. Ça veut dire qu'en fait, c'est un moment extrêmement favorable pour être offensif, mais les forces qui sont censées le faire ne le font pas. au nom justement de cet unanimisme, de ce nationalisme, de ce patriotisme qui est extrêmement, encore une fois, problématique.
Je voulais justement te poser une question là, dans tout ce que tu développes, mais on pourrait faire le parallèle, pourquoi pas avec les Gilets jaunes, je ne vais pas y parler artificiel, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des lieux? Apparemment, les lieux officiels, etc., sont vraiment assez verrouillés. Est-ce qu'il y a des lieux bêtement, quoi. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des endroits dans les facs, ou est-ce qu'il y a eu une occupation où les gens peuvent discuter, quoi. Enfin, vraiment discuter, essayer de comprendre ce qui se passe, voir comment ils peuvent peser sur ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a des lieux? Voilà.
Alors...
géographique, hein, des lieux.
Alors, il y a un lieu, moi, auquel où je suis allé, où je me suis rendu, parce qu'on m'y a invité. Donc, il y avait un groupe d'extrême gauche qui voulait organiser une discussion sur l'auto-organisation et l'assemblée constituante. Donc voilà, c'était pas quelque chose de... Je peux en parler parce que c'était ouvert, donc dans un lieu ouvert. Et donc c'était dans un parc, le parc de la Liberté, un peu au-dessus de quand on remonte la fameuse avenue Didouche Mourad et avant d'arriver au Sacré-Cœur d'Alger, pas de Paris. Et en fait, voilà, c'est une amie qui m'a informé. J'arrive sur place et je vois un rassemblement de plusieurs dizaines de personnes. Et là, je me dis, mais c'est génial. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs dizaines de personnes à Alger, aujourd'hui, prêts à discuter d'auto-organisation et éventuellement de constituante, qui est un mot d'ordre qui ne m'emballe pas trop, mais on pourra en discuter après. Mais j'ai quand même un doute, parce que je vois qu'ils sont assez bien habillés, je vois une caméra, etc. Bon, j'appelle ma pote. Je lui dis, oui, mais vous êtes bien à droite, là, à l'entrée. Elle me dit, ah non, c'est pas nous, là, c'est pas nous. En fait, c'est Nabni. Nabni, c'est une sorte de think tank démocrate néolibéral qui donne la parole aux cadres, les architectes, les ingénieurs, les diplômés, et qui, justement, font un travail depuis quelques années. Ils ont essayé d'orienter en fait l'État et le régime en faisant des notes de prospective ou d'analyse, qui sont toujours dans une veine néolibérale et démocrate, mais pas trop quand même, faut pas abuser. Et là, donc, il a failli y avoir un gros malentendu, donc j'ai failli me fondre dans la masse, cette masse des néolibéraux, mais ce qui montre qu'eux s'organisent, ont occupé un espace et ont fait des débats publics. Donc non, mais c'est assez intéressant. Donc, moi, je suis monté, parce qu'on m'a expliqué que c'était pas là, et on s'est retrouvé, bon, pour le coup, une petite dizaine. Mais ce qui montre bien aussi le rapport de force, aujourd'hui, faut être tout à fait réaliste. Mais on a eu une discussion passionnante sur l'auto-organisation, on a essayé de partager des éléments d'information, quelle analyse on faisait. Donc on était plutôt d'accord pour défendre plutôt le mot d'ordre d'auto-organisation, donc des comités de quartier, d'usines, etc. Mais... pour le moment, il nous semblait tout de même que ça restait des mots d'ordre, que ça n'a pas encore pris.
Oui, il n'y a rien de concret, il n'y a voilà. pas, je sais pas, tel lieu qui est occupé, souhaité, une université où on n'arrête pas de discuter,
Justement, la question de l'occupation de la grève, c'est assez compliqué. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'occupation de lieu public. Alors que, bon, je le dis, je peux le dire, l'UGTA était facilement prenable il y a quelques jours encore. Je dis pas ça pour donner des idées à mes camarades à Alger, parce que sachant qu'aujourd'hui, justement, comme on est passé dans un climat un peu plus répressif, il me semble que le siège de l'UGTA ne sera pas aussi prenable qu'il l'était il y a encore quelques jours. Mais juste pour terminer là-dessus, donc effectivement, donc ce parc-là semblait. Alors est-ce qu'il va encore l'être? Je ne sais pas, parce qu'il me semble qu'on est en train de fermer l'espace public. Et j'espère qu'il y aura une résistance de la part de la population, mais il commençait à avoir ici ou là des espaces de discussion, pas encore contradictoires, mais les gens se retrouvaient. Et tu voulais peut-être dire quelque chose avant que je pourrais donner une autre anecdote. Et une autre anecdote aussi, c'est que sur le théâtre national d'Alger, il y a des rassemblements d'artistes, alors auxquels moi j'ai pas participé, mais qui ont fait des sortes d'assemblées générales, donc ouvertes à tous. Et là encore, c'est assez inédit, puisque je rappelle peut-être pour les auditeurs qui connaissent pas bien Alger ou l'Algérie, jusqu'en février, c'était inimaginable de se retrouver à plus de 10 personnes, même à plus de 5 personnes, sur les marches d'un lieu public ou dans un parc, sans se faire arrêter par la police. Faut être clair là-dessus.
Il y avait l'état d'urgence.
Ah oui, en plus. Mais même, une fois que l'état d'urgence a été levé, Alger restait une ville fermée à les manifestations, ou aux rassemblements, ou aux attroupements, comme on dit. Il suffit d'être plus de deux ou trois pour que ce soit qualifié d'attroupement. Et ce qui, oui, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je tenais à dire également que avant de partir, hein, un pote m'avait donné rendez-vous devant la Grande Poste, qui est aussi un lieu de rassemblement et de contestation. Très vite, un policier en civil est venu pour me dire que j'avais pas à être devant les marches. Et donc il m'a invité très gentiment à aller attendre mon ami plus loin. Ce qui veut dire que le contrôle policier n'est jamais réellement tombé. C'est-à-dire qu'ils ont autorisé, ou en tout cas, de degré ou de force, je ne sais pas, ils ont fait preuve d'une certaine clémence pour certaines manifestations, mais ça n'a pas été le cas tout le temps, même durant mon séjour. Là, je tenais à la rappeler. Mais ce que je voulais dire, hein, c'était l'anecdote sur ce que j'ai vu sur les marches du Théâtre National d'Algérie. Donc, qui était un lieu de regroupement pour les artistes. Moi, je répète, hein, j'ai pas assisté à cela. J'ai assisté à une forme de performance. Enfin, c'était donc des militants, notamment une militante féministe, qui a appelé à un rassemblement pour réciter de la poésie, pour lire de la poésie. Alors, moi, je pense que dans ces moments-là, la poésie a toute sa place. Mmh. Et donc, je suis arrivé. On était une dizaine de personnes. Et puis petit à petit, 15, 20 personnes, 30 personnes. Alors, les organisateurs étaient essentiellement des militants de gauche, hein, féministes notamment, etc. Plutôt francophones, il faut le préciser également. Alors, moi-même, je suis francophone. Et très vite, donc des passants se sont arrêtés. Donc ça commençait à faire un peu masse. Et j'ai entendu de la part de ces nouveaux arrivants une forme de ressentiment et de colère. Et eux parlaient en arabe. Mmh. Ils disaient qu'ils ne comprenaient pas ce qui se disait. Ils ne comprenaient pas les poèmes qui étaient récités en français. Et à un moment donné, donc, un des types a commencé à s'énerver, à s'agacer. Et donc pour éviter qu'il y ait un incident, donc l'organisatrice l'a invité à monter sur les marches et à prendre la parole. Et là, il a commencé à s'adresser à nous, en tout cas à l'assistance, en disant « Mais vous avez, en arabe, hein, mais vous avez la mentalité du colonialisme, vous parlez en français, l'arabe c'est la langue du peuple, après tout, on est tous arabes, on est tous musulmans, et c'est vrai, on est aussi tous berbères. » Et là, quand il a commencé à dire ça, il y avait une jeune femme qui était à mes côtés, qui commence à dire en français aussi, à dire à ses proches, « Oui, mais si ce type commence à nous sortir la question identitaire, moi je me casse, j'ai rien à faire ici. » Et moi, je lui ai répondu, « Non mais au contraire, reste, parce que dans cette configuration, dans ce moment historique qu'on est en train de vivre, toutes les questions vont être mises sur la table, y compris, moi je ne parle pas de question identitaire, y compris la question culturelle, y compris la question de la langue, du rapport à la langue, qui est extrêmement important, y compris, qui peut permettre d'une certaine manière d'expliquer l'isolement de militants de gauche qui sont plutôt francophones, alors que la population est majoritairement arabophone. » Ça, c'est
berbérophone.
Et berbérophone, effectivement. Mmh. Effectivement. Mais l'arabisation est en tout cas bien un sûr. Phénomène qui est massif aujourd'hui, y compris dans les régions berbérophones traditionnellement. Donc j'ai trouvé que c'était quelque chose d'intéressant parce que ça montrait la conflictualité et comment ces espaces qui sont improvisés, en tout cas qui sont extrêmement, qui sont investis d'une manière assez inédite, permettent à des gens assez différents de se rassembler, de discuter, de débattre, de ne pas être d'accord. Et moi, ça me semble assez sain. C'est-à-dire que si ça se poursuit, ce que j'espère, eh bien, il faut qu'il y ait de la contradiction, il faut qu'il y ait du débat et que des personnes sortent de leur certitude et que des milieux qui étaient pendant assez longtemps enfermés, repliés sur eux-mêmes à cause de la répression, à cause de plein d'autres choses, eh bien, s'ouvrent aussi à leur propre société et qu'il y ait un apprentissage mutuel du débat, de la contradiction. Voilà.
C'est très important ce que tu viens de souligner là et c'est... On va développer là-dessus.
Ouais, peut-être, je pense que Monique voudrait faire une petite pause musicale et après je passe la parole.
بلا طعم
Juste avant la pause musicale, on parlait avec Najib, et Najib nous citait cette confrontation en public entre différents points de vue sur la langue, sur la culture, toutes les contradictions en fait qui sont internes à toute société et qui peuvent être soit niées lorsqu'on a affaire à un pouvoir dictatorial ou un pouvoir très très fort qui veut nier toutes les contradictions au sein de la société en disant voilà, on est tous unis et dans une direction qui est celle choisie par le pouvoir bien sûr, mais à un moment donné ces contradictions elles finissent par sortir et apparaître au grand jour, et ou alors on peut les discuter, et ce moment ce que tu viens de citer, c'est un moment très très fort et qui est justement provoqué, suscité lorsqu'il y a lorsque la crise apparaît, lorsqu'elle est vraiment évidente et que la population décide de sortir et de discuter. Alors c'est compliqué, hein, c'est pas facile. On sent bien qu'il y a des tensions, mais que ça vaut le coup d'en parler. T'as repéré d'autres moments comme ça de tension et de contradiction?
Oui, bien sûr. Alors, je pense donc que la contradiction, c'est très sain, et que notamment pour les personnes qui se réclament du mouvement anti-autoritaire ou libertaire ou anarchiste en Algérie, même si là encore ils sont minoritaires comme dans d'autres situations, je pense qu'il faut profiter justement de tous les cadres de discussion possibles, hein, même ceux a priori parmi lesquels on serait peut-être pas forcément à l'aise et où par définition on sera en minorité, mais je pense qu'on a on a des choses à gagner en avançant nos idées, nos idéaux, parce qu'il me semble qu'il y a quand même aujourd'hui une certaine forme de disponibilité, étant donné que le sectarisme qui a prévalu pendant très longtemps dans une certaine gauche, qui certes aujourd'hui est décomposé, mais disons que leur reste bouge encore, ils ont encore une capacité d'influence ou de nuisance, ça dépend des situations. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas discuter d'ailleurs avec des militants léninistes ou trotskistes, hein, moi-même je l'ai fait, et sur la question de l'auto-organisation, il y a des convergences possibles, mais sans faire de concessions, sans masquer son agenda, de toute façon, je l'ai jamais fait pour ma part. Et donc oui, étant donné l'évolution de la société algérienne, hein, qui n'est plus celle, évidemment, ni celle des années 60, ni celle des années 90, il me semble qu'on peut trouver des milieux, des espaces, à condition aussi nous-mêmes de faire des liens, de tisser des liens, de créer des situations et de pas cacher encore une fois son agenda ou ses idées. Voilà, il me semble que le moment était propice, hein, ce que j'ai vu, en tout cas la conjoncture l'était, mais elle le sera plus encore si nous-mêmes on arrive à créer un rapport de force et à être intelligent dans cette situation. Donc les moments de contradiction ou de débat auxquels j'ai assisté, alors bon, pour la petite histoire, je suis parti à Alger le 19 mars parce qu'il se trouve que je contribue depuis quelques années à une série de livres collectifs qui s'appelle Nous Autres. Donc à cette première séquence auto-promo. Il y en aura une autre tout à l'heure avec CQFD, on ne l'oublie pas. Ouais. Donc c'est une série qui a été lancée par un poète qui s'appelle Amin Khan et qui en 2016 a voulu regrouper, donc au moment où c'est la démoralisation la plus totale en Algérie, où on semble qu'il n'y a plus de perspective possible, où c'est davantage l'exil et la désolation, hein, qui prime. Eh bien, il décide de prendre contact avec des intellectuels, on va dire, plutôt de gauche, de diverses sensibilités, pour réfléchir sur ce que peut être une Algérie heureuse, comme il utilisait ces mots. Donc, déjà, Algérie heureuse en 2016, ça paraissait complètement loufoque, hein, pour beaucoup de gens. Donc, il m'a proposé, par l'intermédiaire d'un ami commun, de contribuer à cela. Donc, j'ai écrit des textes sur différents thèmes. Il y a toute une série de livres, au moins quatre, qui sont sortis depuis 2016. Et le dernier, c'est sur le thème, c'est travailler. Donc c'est sur la question du travail. Donc, sachant qu'il y allait avoir une présentation dans une librairie de l'éditeur, l'éditeur c'est Shihab, la librairie est à Bab el-Oued, située à Bab el-Oued, et donc il y allait avoir une présentation suivie d'une discussion dans la librairie avec 4-5 contributeurs, je me suis dit, ben, moi je vais y aller parce que j'ai aussi envie de parler, de profiter de cette occasion pour discuter directement avec le lectorat, avec le public, et défendre les idées que j'ai défendues dans mon papier, dans mon texte, qui est contre l'exploitation. C'est-à-dire que moi je suis contre l'injonction au travail, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs, hein, je défends aussi le droit à la paresse. Et donc il y a eu un débat extrêmement intéressant entre les différents contributeurs, puisqu'il y avait d'une part, c'est pas la peine de les nommer, mais disons qu'il y avait une aile qui estimait par exemple qu'il n'y avait pas de capitalisme en Algérie, et une autre, au contraire, qui estimait, j'en faisais partie, qu'il y a un capitalisme en Algérie. D'ailleurs, un des intervenants, qui n'était pas moi, disait qu'en Algérie, c'est le capitalisme le plus sauvage, et qui ressemble un peu à celui de l'ère post-soviétique, avec des oligarques, une exploitation forcenée, pas du tout réglementée. Et donc, ce débat était intéressant. Est-ce qu'il y a un capitalisme ou pas en Algérie ? Mmh. Et plus largement, c'est est-ce qu'il existe sur cette terre des espaces où il n'y a pas de capitalisme et où nous-mêmes, hein, où nos consciences ne sont pas colonisées par le capitalisme ? C'est ce que j'ai avancé pour ma part. Et donc, partant de là, hein, de l'analyse de la situation, les perspectives divergent. Donc ceux qui estimaient, par exemple, qu'il n'y avait pas de capitalisme en Algérie, défendaient une solution de compromis, donc gouvernement transitoire, pas forcément constituante d'ailleurs, hein, donc défendait une position responsable au plan politique, puisqu'il devait, selon eux, il fallait que les Algériens se confrontent au vide institutionnel en cas de vacances du pouvoir. Donc il fallait tout de suite qu'il y ait des représentants légitimes qui émergent de ce mouvement, et qui aussi que ce gouvernement transitoire prennent des mesures responsables au plan économique, puisque il y a le catastrophisme institutionnel et le catastrophisme économique, c'est-à-dire que les caisses de l'État sont vides, comme l'économie ne tourne pas avec les grèves, etc., et que le cours du pétrole n'est plus aussi haut qu'à l'époque où le gouvernement pouvait acheter la paix sociale, eh bien, bah oui, il va falloir prendre des mesures courageuses et donc prendre des mesures de rigueur, ce qu'on annonçait déjà avant le début du mouvement, d'ailleurs. Eh bien, moi, je me suis présenté en tant que révolutionnaire irresponsable, c'est que je ne veux en aucune manière prendre part à une transition ou à une combinaison politicienne. Même le mot d'ordre de constituante, je l'ai dit, j'avais des réserves, et je l'ai dit également sur place à tous mes interlocuteurs, et je suis pour la grève générale, pour que la classe des travailleurs prenne conscience de ses propres forces et s'auto-organise partout où c'est possible. Bon, je pense que j'ai dû paraître un peu farfelu pour certaines personnes qui étaient là, mais au contraire, d'autres étaient assez réceptives à cet argumentaire. Donc voilà, il y a eu ces espaces-là, alors que c'est vrai, peut-être limités à des librairies, peut-être limités à des espaces intellectuels, etc. Mais il y a des débats partout, de la discussion partout. Hein, je veux dire, depuis quand je suis arrivé là-bas, ça parlait partout. Dans les cafés, dans la rue, dans les bars, dans les librairies. Les gens ne parlaient que de la suite, que du mouvement et que de la suite. Mmh. Alors avec beaucoup d'illusions, hein, sur lesquelles, on pourrait peut-être un petit peu développer la question de l'unanimisme, du rôle de l'armée, du nationalisme. Mais ça n'arrêtait pas de parler. Mmh.
Est-ce qu'il y a des, en dehors des espaces donc que tu as bien décrits, hein, on voit bien que ce mouvement, il se développe à l'échelle de tout le pays. Hein, ce n'est pas uniquement concentré sur les grandes villes du littoral, hein, c'est vraiment à l'échelle de tout le pays. Ça part vraiment d'une forme de ras-le-bol, en fait, hein, et puis d'indignation, finalement, tout à fait compréhensible et légitime. Et puis c'était le coup de trop, finalement, cette clique au pouvoir, un pouvoir vermoulu qui repose sur le mensonge et sur la prévarication. On voit qu'il y a des aspirations diverses, compliquées, et puis mettre en mots toutes ces aspirations, ça semble vraiment très difficile, délicat. Tu viens de nous donner un exemple entre deux conceptions du capitalisme ou du non-capitalisme présent en Algérie. Qu'est-ce qui peut éventuellement fédérer une bonne partie de la population, je ne parle pas d'unanimisme, de fédération sur un projet collectif commun. Quels seraient les ressorts d'un tel projet, si tant est qu'il puisse exister? Quelles seraient les revendications et les modalités de mise en œuvre d'une telle, d'une telle possibilité?
Il me semble que dans les mots d'ordre, dans les slogans qui étaient chantés ou scandés le vendredi, mais pas seulement, là encore, hein, dans toutes les autres marches de différentes catégories socio-professionnelles, il y a une profonde aspiration à la dignité, à la justice sociale. Mais là encore, c'est pas propre à l'Algérie, c'est propre à tous les mouvements sociaux de par le monde, mais plus particulièrement aussi à ce qui s'est passé depuis les printemps arabes, depuis 2011. Hein, la notion de dignité a été souvent commentée, reprise. Et d'ailleurs, je me permets peut-être d'ouvrir une petite parenthèse, c'est notamment le rapport extrêmement ambivalent des Algériens au printemps arabe. Hein, puisque la question classique, c'est oui, pourquoi il s'est rien passé en Algérie en 2011 alors que partout ailleurs ça a bougé. Bon, ça n'a pas bougé partout et ça n'a pas bougé de la même manière. C'est que justement, il y a eu, en raison de l'intervention occidentale en Libye, et puis après, mais sûr, c'est pas en 2011, mais après l'évolution de la situation en Syrie, avec couplée à la propagande du régime et à sa capacité justement d'acheter la paix sociale, même si je sais qu'en Algérie, mes amis et camarades avec qui j'ai discuté n'aiment pas cette expression, parce qu'ils pensent que quand on parle d'achat de la paix sociale, on évacue la combativité. Mmh. Sauf que moi, je l'évacue pas du tout. Quand on achète la paix sociale, c'est qu'on a peur aussi. C'est qu'il y a une conflictualité et qu'il y a une offensive de la part de la population. Donc, je fais écho à des discussions. Et si on a des amis en Algérie qui nous écoutent, ils se reconnaîtront et je les salue, évidemment. Il y a eu, on va dire, un rapport extrêmement ambivalent des Algériens par rapport au printemps arabe. Donc, ils n'ont pas suivi, évidemment, au même rythme. Sauf que ça a quand même travaillé les consciences. Et donc, ça se retrouve notamment dans cette exigence profonde de dignité, mais qu'on peut retrouver partout ailleurs, là encore, mais aussi avec le slogan « Le peuple veut la chute du régime », qui est typiquement le slogan de 2011. Et là, c'est vraiment repris, ça a été repris dans la rue, et il y a toute... on pourrait faire une étude des slogans. Il y a une stratification historique des slogans qui renvoient à la fois... on l'avait dit lors de la dernière émission, qui renvoie à la fois aux luttes, aux traditions de lutte nationale en Algérie. Alors il y a par exemple Pouvoir assassin, alors c'est le slogan ou le chant qui a été scandé en 2001 lors du printemps noir de Kabylie. On a donc le peuple veut la chute du régime, et d'autres qui renvoient justement à différentes étapes de la conflictuelle en Algérie, qui remontent parfois aussi à l'histoire du mouvement anticolonialiste, à la séquence de 62 et après. Donc on a toute cette continuité aussi, ce lien qui est fait entre la première révolution, la révolution anticoloniale, et celle d'aujourd'hui. Alors je peux peut-être dire aussi ce que j'ai vu dans les manifestations du vendredi en particulier, où les manifestants brandissaient des portraits de martyrs ou de dirigeants de la révolution, donc de dirigeants du FLN essentiellement, même si à Tlemcen, par exemple, il y avait des portraits de Messali.
C'est sa ville natale.
Voilà, tout à fait, tout à fait. Ce qui fait que, même si le slogan... Je fais une petite parenthèse, hein, c'est un texte que j'ai écrit pour le journal CQFD de ce mois. Même si le slogan « FLN dégage » est extrêmement repris au sein de la population, chez les protestataires, ils font tout de même la distinction entre le premier FLN, donc le FLN historique, sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire, mais disons qu'il y a une vision un peu mythologique qui reste dans la conscience de la majorité de la population, et donc font différence entre ce premier FLN et le second FLN, qui pour eux est associé donc au régime dictatorial, corrompu, corrupteur, et plus encore au cours des dernières années, où c'est devenu le refuge d'hommes d'affaires, où des personnes ont acheté des sièges pour avoir l'immunité pendant quelques années et continuer à faire leurs sales affaires. Donc... Il y a un peu tout ça que j'ai vu dans les manifestations, même si on pouvait déjà le sentir ou le lire dans les articles, dans les comptes rendus ou dans les discussions que j'ai pu avoir avec des gens qui étaient sur place ou qui en revenaient. Et ce lien justement entre ces deux révolutions, ou aussi entre ces différentes strates de contestation propres à l'Algérie, et également qui réinsèrent l'Algérie dans son environnement régional, c'est assez intéressant. Donc je l'ai dit pour le slogan, mais on peut également attirer l'attention sur l'appellation de ce mouvement. Hein, on l'appelle le Hirak.
Le mouvement, la voilà. Mouvance, oui.
Mais qui est, là encore, un mot qui est emprunté à ce qui s'est passé au Maroc. Oui. Donc la dans contestation le RIF, dans le RIF. Oui. D'ailleurs, alors certains Algériens qui sont très nationalistes, qui ne veulent pas qu'on confonde leur très beau mouvement bien spécifique avec ce qui se passe ailleurs, ils n'étaient pas toujours d'accord avec cette appellation-là. Mais tout de même, c'est l'appellation qui est utilisée par beaucoup de contestataires. Donc, ce qui veut dire que ça circule, les choses circulent. Et tout à l'heure, tu hésitais d'ailleurs à faire une comparaison peut-être hâtive avec le mouvement des Gilets jaunes. Moi, j'en ai discuté sur place avec mes amis, donc notamment les contestataires qui ont beaucoup suivi le mouvement des Gilets jaunes en Algérie, sachant que évidemment, les Algériens restent très connectés pour des raisons familiales ou autres, à ce qui se passe en France. Mmh. Et ils suivent beaucoup ce qui se dit dans les médias français, la situation politique française. Il n'y a pas que les Algériens, d'ailleurs. Et donc, peut-être qu'il y aurait quelque chose à creuser. C'est-à-dire, qu'est-ce que le mouvement des Gilets jaunes a occasionné ou provoqué en Algérie? Ça a été suivi. Et à mon avis, peut-être le parallèle le plus juste à faire entre les deux mouvements, c'est peut-être cette notion de dégagisme ou de méfiance des appareils politiques, des partis politiques, où, et là, ça ressortait des articles de presse, c'est ce que j'ai pu voir sur place, c'est ce dont j'ai pu discuter aussi sur place avec des militants qui sont au sein de partis politiques ou qui activent en dehors des partis politiques, c'est la très grande réticence, justement, à l'égard des organisations. Pas forcément de l'organisation, mais des organisations politiques, qui, d'une manière ou d'une autre, restent associées à la débâcle actuelle, ou bien parce qu'ils ont contracté des alliances avec des partis du régime. Alors typiquement, c'est le cas du Parti des Travailleurs, qui avait conclu un pacte avec l'UGTA et aussi, selon les élections, avec les partis d'administration. Ce qui fait que, alors moi je ne cautionne pas évidemment des actes de violence faits à telle ou telle personnalité politique, mais il y a quand même une hostilité vis-à-vis à l'égard de la secrétaire générale du Parti des Travailleurs, Louza Hannoun, qui s'est fait bousculer ou chahuter.
Donc, eh bien, c'est très bien, c'est super cette intervention de Sidi Moussa. Dirons-nous que la seule chose que je voudrais signaler tout de même, c'est l'évolution depuis quelques jours, où effectivement, on peut craindre une répression de plus en plus sévère. Il y a toujours du monde. Le pouvoir pensait, ainsi d'ailleurs les médias français pensaient, Bouteflika démissionnant, ça allait calmer le peuple algérien. Eh bien, il n'en est rien. Puisqu'effectivement, les gens veulent tout. C'est-à-dire que ce système dégage. Et là, effectivement, il y a un parallèle à faire tout de même avec la France, avec une certaine fraction des Gilets jaunes. Alors, bon, il le dit d'ailleurs très bien. Alors, je pense aussi que ce qu'on a entendu là, c'est sur Alger. C'est-à-dire qu'il y a certainement bien beaucoup d'autres choses qui se passent en dehors d'Alger, en particulier en Kabylie. Et là, je pense qu'on aura l'occasion certainement de revenir sur l'Algérie avec d'autres interventions, d'autres personnes qui sont là-bas peut-être, restent là-bas ou sont au courant de ce qui s'y passe. Voilà, alors là, bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si ce n'est quand même, faut rappeler que Bouteflika a été obligé de démissionner le 2 avril, que le 4 avril, il a été remplacé par, d'après la Constitution, par Abdelkader Ben Salah, qui lui ne sera là jusqu'au 4 juillet, date des élections qui auront lieu en Algérie. Alors là, on peut dire aussi peut-être, et là, je pense qu'il va y avoir certainement des phénomènes de récupération. N'empêche que la parole s'est libérée. C'est ça qui est important, surtout quand on est dans un pays où il règne une certaine dictature.
Alors, j'ai vu aujourd'hui dans un article dans je ne sais plus quel journal qu'une grande majorité des maires ne voulaient pas organiser des élections présidentielles le 4 juillet.
Ah, ça c'est intéressant. Enfin, de toute façon, ça bouillonne. C'est ça, c'est super, un mouvement social. Allez, on va se quitter, on va se retrouver certainement la semaine prochaine, ce sera la suite d'ailleurs. On parlera aussi des CRA, les centres de rétention administratifs. Et puis peut-être qu'avant de partir, je crois qu'il me reste du temps, je suis tombé sur une nouvelle absolument incroyable. le RSA, ben on parle, il y a un projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale le 20 mars par 22 députés de droite. Elle vise à suspendre pour une durée maximum d'un an les droits du RSA, donc pour les personnes qui se rendent coupables d'exactions lors des manifestations et qui se trouvent être bénéficiaires du RSA. À signaler que parmi ces 22 députés, il y a une femme de Reims qui est députée, qui est Madame Beauvais, Valérie Beauvais, qui d'ailleurs, dont la permanence, mais ça, je ne le dis pas aux Gilets jaunes, la permanence est à côté de la place Cérès, ça a bon à savoir.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Rigors chaque semaine sur les Collégaries de Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Girons et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres d'ailleurs sur le site aussilibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.
Et lors d'une manifestation à Alger. Voilà.